RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI matin.
Et le journal avec vous, Pierre Boudias. Le Proche-Orient, toujours loin de l'apaisement.
La crainte d'une riposte après les frappes israéliennes sur Téhéran hier. Au Liban, le conflit entre Tel Aviv et le Hezbollah mine une économie déjà fragile. Les conservateurs japonais sur la sellette. Le parti au pouvoir pourrait perdre sa majorité à l'issue des législatives de ce dimanche. Le PLD a vu sa crédibilité entachée par des affaires à répétition. Les paramilitaires soudanais accusés de nouveaux massacres. Les forces de soutien rapide auraient tué plus de 100 personnes dans le centre du pays. Les médecins soudanais appelle à ouvrir l'accès à la zone. Et puis nous partirons à la découverte de l'ours à lunettes en fin de journal, un mammifère endémique de la cordillère des Andes qui doit son surnom aux taches qui entourent ses yeux. Il est notamment le voisin des participants à la COP16 de Cali.
La détermination de l'Iran à se défendre n'a pas de limite.
Réaction hier de Téhéran suite aux frappes israéliennes qui ont fait 4 morts sur son sol. Washington, Bruxelles et Nations Unies appellent désormais à éviter toute escalade. Elle se poursuit au Liban où deux quartiers de la banlieue sud de Beyrouth ont été visés tôt ce matin. Un conflit qui a jeté 1 300 000 personnes sur les routes et qui mine l'économie du pays du Cèdre. Après plus d'un mois de conflit, les prix de certains produits du quotidien ont augmenté. Les transferts d'argent atteignent des sommets. Reportage dans la capitale de Pierre Olivier et Jade El-Khoury.
Déjà confrontés à une vaste crise économique depuis 5 ans, les Libanais voient avec la guerre les prix grimper encore un peu.
En tant que femme de maison, je fais mes courses tous les jours. Chaque chose a augmenté. Les légumes, les fruits, les médicaments, les choses importées aussi évidemment. Et j'achète seulement le nécessaire.
Aucune donnée chiffrée n'a pour l'instant été publiée sur l'inflation des prix liés à la guerre, déjà bien ressentie par les consommateurs. Pour tenter de limiter ses effets, ce boucher n'accepte plus que les billets verts.
Grâce au dollar, on a une stabilité des prix. On continue d'importer notre viande comme d'habitude. On l'achète en dollars, mais on la vend en dollars. Dans ma caisse, il n'y a pas de livre libanaise. Dollar, dollar.
Dollarisation de l'économie et inflation entraînent une forte hausse des transferts d'argent, comme le constate ce gérant d'une agence.
Les transferts ont augmenté de 70%, surtout en provenance d'Europe et d'Afrique. Il y a beaucoup de déplacés qui ont besoin d'argent pour louer des logements à des prix exorbitants. Même les transferts à l'intérieur du Liban explosent. Il faut dire que plutôt que de risquer de transporter de l'argent par la route, les membres d'une même famille préfèrent payer quelques dollars de frais de transfert.
Avant même que la guerre ne commence, en un an, la hausse des prix a augmenté de 33% au Liban et pourrait atteindre de nouveaux sommets dans les mois qui viennent. Jade El-Khoury, Pierre-Olivier, Beyrouth, RFI.
Situation catastrophique dans le nord de Gaza. Les mots de Tedros Adhanom Ghebreyesus alors qu'Israël mène toujours des opérations autour de Jabalia. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé s'alarme d'une grave pénurie de fournitures médicales combinée à un accès sévèrement restreint pour les soignants.
Au Japon, la journée s'annonce compliquée pour les conservateurs.
Élections législatives anticipées ce dimanche dans le pays à l'issue desquelles le Parti libéral-démocrate pourrait perdre sa majorité. L'actuel Premier ministre Shigeru Ishiba a mené campagne en essayant de renforcer son image d'homme honnête, alors que les scandales financiers ont fait chuter la popularité du parti et les affaires à répétition du PLD pourraient peser lourd, Nicolas Roca.
Nous devons affronter des vents contraires sans précédent. La concession de Shigeru Ishiba est sans appel. Le nouveau Premier ministre voulait asseoir sa légitimité avec un scrutin anticipé. Il espère désormais conserver une courte majorité. Un gigantesque scandale financier continue de plomber la popularité de son corps. En novembre dernier, les médias japonais ont révélé que des millions d'euros issus de levées de fonds ont été retrouvés dans les caisses de certaines factions conservatrices du PLD et non pas dans celles du parti, comme l'exige la loi. Depuis, des dizaines de membres du PLD ont été sanctionnés, mais l'image d'une formation politique plaçant ses intérêts au-dessus de ceux de la population continue de ternir son image. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe avait déjà refusé de répondre aux accusations de corruption à son encontre et puis son assassinat en juillet 2022 avait fait éclater un retentissant scandale autour des liens entre le PLD et la secte Moon, accusée d'escroquer ses fidèles. L'image d'homme juste et honnête du Premier ministre Shigeru Ishiba tranche avec celle de son parti, mais elle n'est peut-être pas suffisante pour éviter une déception dans les urnes.
Législative également hier en Géorgie. Les résultats provisoires laissent entrevoir une victoire du parti au pouvoir, Rêve géorgien. Un succès qui, s'il se confirme, pourrait signifier un rapprochement plus poussé avec Moscou. L'extrême droite pro-russe pourrait également effectuer une percée, cette fois en Bulgarie. 7e élection législative en 3 ans dans le pays, dans un contexte de morcellement politique. À noter qu'on vote également en Lituanie, où le centre-gauche pourrait s'emparer du pouvoir. Opposition et conservateurs aux affaires s'accordent cependant sur le soutien à l'Ukraine. Week-end de vote partout dans le monde, puisque le Brésil vit lui son 2e tour des municipales ce dimanche. La droite pourrait s'emparer de nombreuses localités. Brasilia, qui a posé cette semaine son veto à une adhésion du Venezuela au BRICS, refus lors du sommet qui se déroulait à Kazan en Russie cette semaine. Le président vénézuélien Nicolas Maduro prévient aujourd'hui que personne ne bloquera ni ne fera taire son pays. Propos lors d'une adresse à la télévision nationale où le Brésil n'a pas été directement mentionné.
RFI 9h06 à Khartoum, le Soudan, où les paramilitaires sont accusés de nouveaux massacres.
Notamment dans les villages d'Al-Saïra et d'Azrag de l'état de Gezira au centre du pays. Les forces de soutien rapide y ont tué au moins 124 personnes selon l'organisation Sudan Doctor for Human Rights, qui note également de nombreux blessés. Le bilan pourrait être plus lourd alors que l'accès au terrain est impossible et que les communications sont coupées. Le docteur Rania Suleiman est membre de Sudan Doctors for Human Rights.
It's a massacre.
C'est un massacre, un énorme massacre. Les forces de soutien rapide ont encerclé les villages et ont commencé à tuer des civils désarmés. Ils tuent de sang-froid. La plupart des victimes sont des personnes âgées, des femmes, des enfants. Ils tuent les hommes sous les yeux de leurs enfants. Ils violent les femmes sous les yeux de leurs maris et de leurs pères. Ils humilient, ils bafouent la dignité humaine. Les forces de soutien rapide pillent également les maisons, quoi que vous possédiez, de l'or, de l'argent. Ils emportent tout ce que vous avez. Je n'ai rien vu de pire depuis le début de la guerre, avec de telles images de gens enterrés en masse. Nous avons besoin d'une enquête. Il faut que ces gens rendent des comptes.
Propos recueillis par Florence Maurice. Des combats toujours en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils opposent les rebelles du M23 au groupes pro-gouvernementaux dans le Nord Kivu. Hier, la milice soutenue par le Rwanda a lancé plusieurs offensives dans des villages du Walikale, situé à 180 km au sud-ouest de Goma. Des combats malgré un cessez-le-feu décrété par l'Angola, médiateur dans ce conflit.
Déjà 56 jours de mobilisation contre la vie chère en Martinique.
Un mouvement à l'initiative du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes qui ne s'essouffle toujours pas. L'objectif reste le même, faire monter la pression sur la grande distribution pour faire baisser les prix du tout alimentaire. Peggy Saint-Ville a suivi pour RFI un déplacement du leader de l'EPRAC au Lorrain.
Rodrigue Petitot sillonne les quartiers de l'île depuis quelques jours en allant à la rencontre des habitants. Le leader du mouvement cherche ainsi à grossir les rangs des manifestations. La méthode employée a évolué depuis le début de la mobilisation. Elle se matérialise désormais, en plus de ses lives TikTok, par des marches pacifiques, des sittings, mais également des barrages érigés sur certains axes de circulation. Et Rodrigue Petitot ne croit plus aux promesses faites à 8000 km. Depuis Paris.
Ce qu'on attend, c'est que tous ceux qui ont le pouvoir et le devoir de rétablir le respect du peuple martiniquais quand il doit se nourrir, fassent leur travail. Il y a un ministre des Outre-mer, il doit faire son travail. J'ai entendu dire qu'il ne se déplace pas sous la pression, et pourtant, il y a de la pression à la Nouvelle-Calédonie, il se déplace. Les Antilles, notamment la Martinique, n'ont jamais existé aux yeux du système colonial français, en tant que tel, comme des Français.
Dans le Sud, c'est une manifestation qui se tenait hier devant le centre commercial de Genipa. Sonia, 69 ans, suit les différentes opérations depuis septembre dernier. Cela fait des années qu'elle attend que les choses changent.
J'ai des petits-enfants, j'avais l'habitude d'acheter des petits paquets de biscuits auparavant. 2 euros, maintenant c'est 4 euros. Est-ce que c'est normal?
Dans le Sud, ce samedi soir, c'est au François qu'un nouveau barrage a été installé. Pour autant, la nuit est moins agitée par rapport à ces derniers jours. Peggy Saint-Ville, Le François, RFI.
Et dans ce contexte, et alors que la France tente toujours de se trouver un budget, le Premier ministre Michel Barnier s'est lui confié à nouveau dans une interview au journal Le Parisien, Victorien Villaume.
Je sais que le pouvoir enferme. Michel Barnier veut encore une fois distiller l'image d'un Premier ministre à l'écoute des Français. Il y a des gens intelligents partout, juge-t-il. Et le gouvernement a beau enchaîner les revers lors des discussions budgétaires, il ne se passe pas une journée sans que j'entende une bonne idée, dit Michel Barnier, qui reconnaît toutefois dans un euphémisme, on n'a pas encore trouvé le centre de gravité juste pour le budget. Le Premier ministre donne aussi rendez-vous rendez-vous en décembre pour présenter un plan de réforme pour les 5 ans à venir. Des mesures à en croire l'intéressé pour changer le pays, inspiré des cahiers de doléances de la crise des Gilets jaunes. Une projection à 5 ans qui peut prêter à sourire. Michel Barnier et son gouvernement sont susceptibles de tomber à n'importe quel moment à la faveur d'une motion de censure.
Les discussions se poursuivent également à Cali, en Colombie, où se déroule la COP 16. Les participants pourraient bien croiser un ours à lunettes, une espèce endémique de la cordillère des Andes. Reportage dans le parc national des Farallones de Lucille Gimbert.
Dans les montagnes autour de nous, il sera resté invisible. Pourtant, à 1h30 de marche, un peu plus haut, c'est sûr, il a déjà été repéré par les gardes des Farallones. Ici, l'ours andin laisse des traces sur les arbres où il se frotte pour communiquer. Il jette en chemin les restes des plantes qu'il adore et lui seul est capable de casser un palmier en deux pour en dévorer l'intérieur, explique Gustavo Rodriguez, le biologiste du parc.
Certains camarades l'ont déjà vu. Ouais, moi je n'ai pas eu cette chance. Et depuis l'année dernière, sur un de nos sites touristiques, il a été vu 3 fois. Des visiteurs ont pu observer des ours à peine 5 ou 10 mètres.
Dans ce parc national, la principale menace qui pèse sur l'ours à lunettes, c'est l'élevage qui a morcelé son terrain de jeu. Alors les gardes signent des accords de conservation avec les paysans pour que, moyennant compensation économique ou matérielle, ils libèrent des terres et laissent la forêt revenir.
Une femelle a besoin de 16 km² pour être en bonne santé. Ce sont de grands espaces. Les accords de conservation visent donc les grandes fermes et cherchent à reconnecter les espaces de forêt.
Et beaucoup d'autres espèces bénéficient des mesures de protection des ours, les renards, les pumas et même les arbres.
On l'appelle avec affection le jardinier de la forêt.
Car en mangeant, puis en rejetant des graines dans ses excréments, l'ours andin aide la forêt à s'étendre. Lucille Gimbert, de retour des Farallones, RFI.
Et puis un mot de football, et le Barça a largement battu le Real Madrid sur la pelouse du Bernabéu. À Madrid, les Blaugrana se sont imposés 4-0 avec un doublé notamment de Lewandowski. Une très mauvaise soirée pour le club de la capitale qui compte désormais 6 points de retard sur son adversaire du soir. À Madrid, Pierre Chaperon.
Des sifflets pour une gifle, une humiliation, voire même une leçon. Pour la 5e fois de son histoire, Madrid a perdu par au moins 4 buts d'écart à domicile face à Barcelone. Une soirée à oublier pour Francisco, 62 ans, écharpe du Real autour du cou.
Ce qu'on a fait est totalement ridicule, honteux. Ce n'est pas seulement la faute des joueurs, je crois que le championnat est perdu.
Match raté pour Mbappé, signalé 8 fois hors jeu, un record pour lui. Un premier classico à oublier, lui qui était pourtant attendu au tournant. Comme un symbole, Lamine Yamal, autre star de ce classico, a marqué un but. Icône de cette jeunesse barcelonaise, le catalan de 17 ans savouré.
Oui, l'équipe est très heureuse. Cette victoire, c'est 3 points de plus en championnat. Nous sommes très contents. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée. On a tout donné et ça a payé.
Un Barça qui confirme son embellie après une semaine faste. Victoire contre le Bayern en Ligue des Champions et Madrid en championnat. Le Real devra, lui, trouver des solutions afin d'éviter ce genre de déconvenue. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et c'est la fin de cette édition. La suite, c'est avec vous, Julien Coquel-OM.
Merci beaucoup, Pierre Boudias. À tout à l'heure. Nous, dans quelques minutes maintenant, on retrouve le journal à l'Afrique et tout de suite la revue de presse sur RFI. Avec vous, Catherine Potet, le tour de la presse hebdomadaire et des journaux du dimanche en France, avec à la une nouvelle page entre la France et le Maroc.
C'est la Tribune Dimanche qui consacre sa une à la visite de 3 jours qu'Emmanuel Macron entame demain à Rabat. France-Maroc, la grande réconciliation, titre le journal. Il s'agit, nous dit-on, d'enterrer une brouille de 6 ans. En cause, une succession de couacs, la perte de marché économique et un désaccord profond sur la question migratoire. Mais ce n'est pas tout. Ce voyage devrait aussi être celui des gros contrats, explique la Tribune Dimanche, qui voit encore plus loin, évoquant la dimension africaine de la relation franco-marocaine. Avec un marché ouest-africain en pleine expansion, assure le journal, Rabat et Paris ont tout intérêt à mettre en place une offre commune pour répondre aux besoins de la région, alors que le Maroc est le 2e investisseur sur le continent.
On ouvre à présent le... On ouvre à présent M, le supplément du Monde.
M consacre un long article aux médias numériques plus 972, allusion à l'indicatif téléphonique partagé entre Israël et la Palestine, média composé de Palestiniens et d'Israéliens, précise le magazine. Depuis les massacres du 7 octobre et la riposte de l'État hébreu, explique M, les reporters de ce média en ligne gratuit font partie des rares journalistes encore présents à Gaza. Leurs enquêtes sous les bombes dérangent un état-major israélien de plus en plus enclin à la censure. Il faut dire qu'Israël interdit l'accès de la bande de Gaza à la presse internationale alors qu'on estime à 130 le nombre de journalistes, pour la plupart palestiniens, tués dans l'enclave palestinienne. Grâce à notre travail, estime Rouwaïda Hammer, ancienne enseignante âgée de 30 ans, devenue journaliste, personne ne peut ignorer ce qui se passe dans la bande de Gaza. Elle-même vit à Khan Younes et poursuit M, enchaîne les interviews de blessés et de familles de victimes, malgré les crises de larmes et les moments de découragement qui la traversent.
Direction les États-Unis à présent, à un peu plus d'une semaine de l'élection présidentielle.
La dernière trouvaille de Donald Trump, se présenter en sauveur des femmes. Dans l'Express, l'historienne Françoise Coste détaille sa méthode. L'ancien président, dit-elle, met en œuvre deux stratégies. La première, peu glorieuse, consiste à éluder le sujet de l'avortement. La seconde est contre-intuitive. Elle consiste à présenter Trump comme le champion des Américaines. Françoise Coste prend pour exemple la convention de Milwaukee, lors de laquelle beaucoup de femmes se sont succédées à la tribune. Des élues républicaines, des collaboratrices de Trump à la Maison-Blanche, des dirigeantes du secteur privé ou encore des membres de la famille. Dans le même temps, ajoute l'historienne, l'ancien président martèle deux sujets de campagne principaux, l'immigration et l'addiction aux opioïdes. Et pour évoquer ces questions complexes, il s'appuie presque exclusivement sur des figures féminines, qu'elles soient épouses, mères ou proies sexuelles. Il faut croire, conclut Françoise Coste, que cette posture de protecteur des femmes est payante, car le candidat y recourt de plus en plus en jouant à 100% sur l'émotion, sans se soucier de défendre un projet.
Donald Trump, qui trouve dans le journal du dimanche, propriété de Vincent Bolloré, un ardent défenseur.
Disons plutôt que le JDD a décidé de descendre en flèche sa rivale Kamala Harris. En attaquant Trump, estime le journal, la candidate démocrate est surtout en train de flinguer sa propre campagne. Le journal du dimanche appelle cela les bévues de la candidate. Prenant exemple d'une interview sur Fox News où elle s'est montrée peu convaincante sur l'immigration, sur les questions difficile, ajoute le JDD, Kamala Harris se perd toujours dans les explications. Embêtant pour une ancienne procureure, ses opposants, mais pas seulement eux, parlent de salade de mots, une sorte de digression sous forme de cadavre exquis pour éviter les sujets sensibles. Le journal du dimanche fait mine de s'étonner, estimant que jusqu'ici, la démocrate s'était habilement débarrassée des clichés débités depuis maintenant 8 ans par son parti au sujet de son adversaire. Non parce qu'elle avait davantage de respect pour lui que n'en avait Hillary Clinton, mais pour ne pas injurier des Américains qui ont déjà voté pour lui par deux fois. Deux fois, vraiment, le JDD semble oublier que la deuxième fois, Donald Trump a bel et bien perdu l'élection présidentielle.
Enfin, Catherine, une nouvelle rassurante pour celles et ceux que l'intelligence artificielle effraie.
C'est dans Le Point, l'interview de Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, où il est titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Un professeur qui nous explique que notre cerveau est plus fort que l'intelligence artificielle. Pas question d'avoir des complexes, résume Le Point. L'intelligence artificielle n'est pas prête de rivaliser d'intuition, de créativité et de sens de l'à-propos avec notre cerveau. Croyez en vous-même, s'exclame Stanislas Dehaene, croyez en votre cerveau, apprenez à mieux le connaître, car avec un peu d'effort quotidien, son potentiel d'apprentissage est tout simplement extraordinaire.
Catherine Potet, merci beaucoup, bon dimanche à vous.
RFI à Paris, 89 FM.
Et comme chaque dimanche, l'actualité politique en France sur RFI et Marine Le Pen à la une aujourd'hui. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour.
On promettait un octobre en enfer pour la chef des députés RN, jugée en ce moment dans l'affaire des assistants parlementaires. Pourtant, la double finaliste de l'élection présidentielle n'est jamais apparue aussi puissante politiquement.
Et oui, la dissolution est passée par là. Le contingent mariniste, 126 députés depuis les dernières élections législatives, pèse plus que jamais sur un gouvernement fragile dirigé par un homme de droite, Michel Barnier. Le tout dans une assemblée morcelée où toutes les solutions, ou presque, passent par le Rassemblement national. La gauche paraissant déterminée à faire du bloc central et de l'extrême droite des alliés objectifs. Cette position hyper influente permet à Marine Le Pen d'exister politiquement au moment où elle comparaît, vous l'avez dit, devant la justice dans la fameuse affaire des assistants parlementaires pour laquelle elle encourt, rappelons-le, une bien fâcheuse peine d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Conséquence, l'attention médiatique et politique est davantage braquée sur la position du RN sur tel ou tel texte de loi que sur le procès.
Et pour le moment, Marine Le Pen engrange des victoires essentiellement symboliques.
Avec une pression maximale exercée sur le gouvernement, Marine Le Pen a demandé une nouvelle loi immigration en septembre. Elle a été annoncée quelques jours plus tard. Un ministre, Antoine Armand, chargé de l'économie, a été recadré par Michel Barnier après avoir dit ne pas vouloir travailler avec le RN. Et ce petit jeu pourrait bien aboutir sur des victoires politiques concrètes, à commencer par le budget. Il n'est pas trop tard pour revoir votre copie. Nous comptons bien vous convaincre pour ne pas être obligé de vous contraindre. Voici les mots de Marine Le Pen en début de semaine à l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Un ton menaçant, car elle le sait, elle peut, en cas de très probable motion de censure consécutive à un 49-3, renverser Michel Barnier.
Et qu'est-ce que le RN peut imposer dans le prochain budget ?
Eh bien, c'est là que les choses se compliquent pour ce parti habitué au confort de l'opposition. Si l'an dernier, la stratégie de la cravate ne coûtait pas grand-chose, cette fois, le RN doit être crédible. Des demandes trop farfelues le discréditent, des demandes trop exigeantes le placent dans le camp des déstabilisateurs. D'où l'importance des lignes rouges à définir clairement dans les prochains jours. Depuis de longues semaines, les troupes de Marine Le Pen évoquent en priorité les taxes sur l'électricité et les pensions de retraite. Reste à savoir également comment tranchera Matignon. Michel Barnier ne veut surtout pas paraître inféodé à l'extrême droite. Marine Le Pen, elle, veut aiguillonner le gouvernement, mais arriver à la prochaine dissolution, voire la prochaine présidentielle, en opposante crédible.
Raphaël Delvolvé, merci beaucoup. C'est l'histoire poignante de la quête d'une mère caribéenne à la recherche de ses enfants dispersés par l'esclavage. Dans Chemin d'écriture aujourd'hui, le premier roman d'une autrice britannique, La Liberté est une île lointaine. Bonjour Tirtan Karchanda.
Bonjour Julien Coquelroem, bonjour à tous et à toutes.
Un premier roman donc et un titre particulièrement poétique.
C'est un titre à la fois poétique et programmatique. Il dit la quête de la liberté qui est le thème du roman. L'île dans le titre renvoie à l'espace caribéen où se déroule l'action du roman. Son auteur, Eleanor Scherer, est britannique, d'origine caribéenne. Son roman a partie liée à son héritage caribéen, mais aussi à son intérêt pour l'histoire de cette région. Eleanor Scherer.
Je suis une écrivaine d'origine métisse. Dans les années 50, mes grands-parents maternels ont quitté la Caraïbe pour venir s'installer au Royaume-Uni. Ils faisaient partie de ce que les historiens appellent la Windrush Generation. J'ai grandi chérissant mon héritage caribéen, qui est à l'origine de mon vif intérêt pour l'histoire de cette région. Quand j'ai eu 16 ans, je me souviens d'être allée voir, avec ma mère, une exposition sur l'abolition de l'esclavage dans les îles caribéennes. C'est en regardant cette exposition que j'ai découvert que dans les années qui ont suivi la fin de l'esclavage, plusieurs femmes se sont lancées dans la recherche de leurs enfants revendus par leur maître. Cette histoire est restée longtemps gravée en moi comme un symbole de la résistance à l'esclavage.
Tirtan Kar, l'action de ce roman se déroule donc au 19e siècle.
Nous sommes à Providence, une plantation dans l'île de la Barbade. L'action se déroule en l'an de grâce 1834, une année historique lorsque le Royaume-Uni proclame la fin de l'esclavage dans les colonies. Après 2 siècles d'horreur perpétrée contre les corps et les esprits, l'esclavage touche à sa fin. Certes, seulement en apparence dans un premier temps. Comme on le comprendra en plongeant dans le récit de Rachel, protagoniste du roman. Au plus noir de la nuit, Rachel courait. Ainsi débute le récit.
Pourquoi Rachel court-elle ?
c'est parce qu'elle est désemparée. En fait, l'abolition ne fut que théorique. Le Parlement britannique, dont dépendait l'île de la Barbade à l'époque, venait de décréter que pendant les 6 années qui allaient suivre, les esclaves allaient devoir travailler gratuitement pour leurs anciens maîtres. Un arrangement cynique qui ne convient pas à Rachel, qui attendait ce jour d'émancipation avec impatience. Alors, elle décide de s'enfuir, profitant des émeutes qui éclatent à l'annonce de cette émancipation reportée.
Où va-t-elle alors ?
Elle va sur la trace de ses enfants qui lui avaient été arrachés au fil des années pour être revendus dans d'autres plantations. Dans la postface de ce roman, l'auteur explique comment elle s'est inspirée d'un récit oral découvert à l'exposition qu'elle avait visitée avec sa grand-mère. Ce récit racontait l'histoire d'une certaine mère Rachel qui avait traversé à pied l'île d'Antigua après l'abolition de l'esclavage pour retrouver l'une de ses filles. Comme sa modèle, la Rachel du roman est elle aussi engagée dans une lutte de résistance contre le système esclavagiste qui avait détruit les familles.
Et Rachel finira-t-elle par trouver ses enfants ?
Disons qu'elle finira par trouver leur trace, même si le recollage des morceaux de la famille dispersés par l'esclavage s'avère difficile à réaliser. La force d'Eleanor Scherer est d'avoir su mêler avec inventivité l'imagination et l'histoire qui lui permet de dépasser les stéréotypes pour penser l'esclave comme à la fois victime et acteur de son destin. Eleanor Scherer.
J'ai bâti ce roman autour des personnages qui sont les oubliés de l'histoire officielle. Les historiens, quand ils en parlent, c'est toujours à partir d'une grille des lectures blanche, donc dominante. C'est une perspective qui n'est pas très fiable quand il s'agit de dire l'intériorité des dominés. Même si on a beaucoup lu sur le sujet et interrogé une multiplicité de témoins, on ne peut pas faire autrement que de s'appuyer sur l'imagination pour combler les trous dans le narratif officiel.
C'est en s'appuyant sur son imagination puissante et poétique qu'Eleanor Scherer fait entendre derrière l'histoire officielle les voix tues des dominés.
Eleanor Scherer et son premier roman La liberté est une île lointaine, déjà à l'honneur de Chemin d'écriture. Tirtan Karchanda, merci beaucoup. Bientôt 7h30 en temps universel sur RFI avant le retour de l'info africaine, notre reportage culture et le film qui a décroché la Palme d'Or au Festival de Cannes cette année, Anora, sort mercredi prochain en France. Présenté comme un Pretty Woman moderne et déjanté, ce film de Sean Baker suit le parcours d'une stripteaseuse qui pense échapper à sa condition en se mariant à un jeune russe richissime. Mais rien ne se passe comme prévu, Sophie Torlotin.
Anora survit comme entraîneuse dans un bar à hôtesse de New York. La vie de cette cendrillon des temps modernes bascule quand elle fait la connaissance du fils d'un oligarque russe.
Tu accepterais d'être exclusivement avec moi ?
J'en veux 15. Cash et payé d'avance.
Pour ce rôle, Mikey Madison a travaillé la langue russe et le dialecte ouzbek et bien plus encore.
J'ai rencontré plusieurs jeunes femmes merveilleuses consultantes sur le film. Elles m'ont fourni beaucoup de détails concrets sur le métier de stripteaseuse. J'ai aussi bénéficié d'une préparation physique. J'ai pratiqué la pole dance, la danse érotique, le twerk, tout ce que l'on voit dans ces clubs. Je me suis entraînée pendant plusieurs mois. J'ai même installé une barre de pole dance dans mon salon de façon à ce qu'à l'image, on ne voit pas l'effort.
Le film commence comme un conte de fées trivial et pétaradant, mais se transforme en cours de route.
Pendant 2 semaines, je te surveille pas et tu te maries avec une prostituée.
Car les riches parents russes ne voient pas d'un bon œil le mariage de leur rejeton avec une stripteaseuse. Ils envoient des hommes de main pour faire annuler l'union. Mais entre-temps, Ivan a disparu et voici les gros bras flanqués d'Anora le recherchant dans les rues new-yorkaises.
On ne va pas divorcer, fils de pute !
Le réalisateur Sean Baker, qui explore depuis plusieurs années le milieu des travailleurs du sexe aux États-Unis, entraîne les spectateurs dans un grand huit émotionnel.
Les 3 premiers quarts d'heure, les spectateurs pensent voir une comédie romantique dans l'univers des super riches. Et puis ensuite, ils vont découvrir la réalité pendant l'heure et demie qui suit. Cela m'intéressait d'installer des attentes et puis de les tailler en pièces. Je propose au public différents genres en espérant qu'ils me suivent dans ce projet.
Venez pas me dire que vous êtes fait tabasser par une gamine !
Non !
Mikey Madison incarne une Anora surprenante, bien décidée à ne pas se laisser faire.
Je voulais qu'elle soit la plus authentique possible. Personne n'est tout d'un bloc, seulement une battante ou une victime. Elle est quelque part entre les deux. J'aime qu'elle se batte. Et c'est drôle, mais elle est aussi vulnérable.
Vous êtes une bande
de cinglés !
S'il te plaît !
La Palme d'Or consacre fort à propos ce réjouissant film de la scène indépendante américaine qui subsiste à l'écart d'Hollywood et des franchises de super-héros.
Sophie Torlotin pour notre reportage culture et le film Anora, lauréat de la Palme d'Or à Cannes et qui sort en salle mercredi en France. Le journal dans 30 secondes.
RFI, la sélection du mois.
Flavia Coelho. Tiakola et SDM.
RFI.